Eh bien, sans transition, nous allons passer à la méditation, à la réflexion. Et j'aimerais bien vous poser une petite devinette, mais je demanderai à Evelyne de ne pas donner la réponse. Je vous dis que je suis un fruit moelleux et sucré. Vous pouvez me dire, je suis. Vous savez toujours pas. Et puis si je rajoute, je pousse à l'origine dans le bassin méditerranéen, mais on me trouve de plus en plus fréquemment en Belgique et même encore plus au nord. Ah, les figues, c'est bien ça. Effectivement, les figues. Alors j'allais encore vous amener à découvrir si vous n'aviez toujours pas trouvé de quel fruit il s'agissait, quelques pistes, mais c'est bien. Et dans la Bible, la vigne, ou la figue comme la vigne, est un signe de bénédiction. Et on trouve dans Deutéronome chapitre 8, versets 7 et 9, par exemple, ceci. Deutéronome 8, versets 7 à 9. L'Éternel va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, pays de froment, d'orge, de vigne, de figues, de grenadiers, d'oliviers, etc. Donc, le figuier trouve sa place parmi tous les arbres fruitiers présents en terre promise, source de bénédiction. Alors, 1 Roi, chapitre 4, verset 25. 1 Roi, chapitre 4, verset 25. Ah, ben ça ne fait rien, alors je vais en faire la lecture. Juda et Israël habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et son figuier, tout le temps de Salomon. Et on sait que durant le règne de Salomon, ça a été un climat de paix dans tout le pays d'Israël, durant le long règne du roi Salomon. Juda et Israël habitent en sécurité, chacun sous sa vigne et son figuier tout le temps de Salomon. Le figuier apporte d'une part la nourriture, on en fait des masses de figues ou encore des gâteaux aux figues, et aussi le figuier apporte une protection contre les rayons souvent violents dans cette contrée du monde, en Israël, les rayons du soleil. Nourriture, protection, bénédiction. La Bible attribue aussi certaines vertus médicinales aux figues. On se souvient du prophète Ésaïe qui a soigné l'ulcère du roi Ézéchias en appliquant un cataplasme de figues sur son ulcère. Et nous lisons en Ésaïe chapitre 38, verset 21, qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Figue, donc, source de médecine douce. Enfin, le figuier, dans la Bible, est aussi le symbole de la nation d'Israël. Et nous lisons dans Jérémie chapitre 8, verset 13, Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Jérémie 8, verset 13. Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier, le feuillage est flétri. Et dans cet extrait, on voit que le prophète Jérémie s'adresse donc aux prêtres qui sont responsables de l'organisation du culte en Israël, mais aussi au peuple, le peuple qui est devenu irreligieux, stérile. Plus personne ne porte du fruit. Et dans ce verset, on voit aussi que le figuier écrasé, eh bien, annonce la destruction du temple de Jérusalem par l'armée babylonienne vers le 6e ou le 7e siècle avant Jésus-Christ. Je ne me souviens plus de la date exacte. Donc, et la captivité aussi du royaume de Juda. Alors, nous allons lire un texte dans le Nouveau Testament, un texte qui est bien connu et qui fait référence à un figuier aussi qu'on appelle le figuier maudit. Et on va comprendre pourquoi. Marc 11. Et nous lirons à partir du verset 12. Et on rappellera le contexte après la lecture. Marc chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les scribes, les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Puis le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde ce figuier que tu as maudit. Il a séché. » Puis on va s'arrêter là, même si le contexte parle de la prière de la foi. On va mettre l'accent sur le figuier. Alors, le texte nous relate l'arrivée triomphale de Jésus à Jérusalem. La foule, les habitants acclament le Seigneur et cette marche joyeuse se termine dans le temple. Alors, tard au soir, après avoir fait l'état des lieux, Jésus quitte Jérusalem et va se rendre à Béthanie, dans la maison de Marthe, de la maison hospitalière de Marthe, de Marie et de Lazare. On sait que Jésus, n'est-ce pas, était l'ami de Lazare. Et là, avec ses disciples, vraisemblablement, Jésus trouve un endroit où loger. Et le lendemain, quand Jésus, toujours accompagné de ses disciples, sort du village de Béthanie, il commence à avoir faim, à ressentir, un petit creux comme ça. Et puis là, au loin, il voit un figuier avec un beau feuillage. Et il espère y trouver quelque chose pour manger et pour couper sa faim. Mais quand il s'approche du figuier, il n'y a pas de fruit. Et c'est normal, puisque l'évangéliste Marc précise que ce n'est pas la saison des figues. Et s'ensuivent ces paroles de Jésus, que jamais personne ne mange ou que personne ne mange jamais plus des fruits. Jésus maudit le figuier stérile. Alors le lendemain matin, Jésus, toujours accompagné de ses disciples, reprennent le même itinéraire, Béthanie-Jérusalem, et ils retrouvent l'arbre qui est desséchée jusqu'aux racines. Alors cela peut nous paraître un peu choquant, injuste quelque part. Vous savez, il m'est arrivé de planter il y a quelques années un abricotier dans le jardin. Mais l'année suivante ou l'année d'après, il a commencé à produire quelques kilos d'abricots. Et l'année suivante, l'année d'après, il n'a pas porté de fruits. Et puis j'ai patienté pendant 4-5 ans, et il n'a plus rien donné. Alors finalement, après mûre réflexion, je me suis décidé à le couper, à l'abattre pour mettre un autre arbre, puisqu'il prenait de la place inutilement. J'ai mis un amandier. Ça pousse aussi par ici. C'est des porte-greffes qui sont assez résistants à notre climat. Alors, dans notre passage, Jésus semble reprocher injustement au figuier de ne pas porter de figues alors que ce n'est pas la saison des figues. C'est vrai que c'est interpellant, c'est interloquant. Alors les interprètes se sont transformés en Nathan et en Samuel, en arboristes et en horticulteurs pour tenter de résoudre ce problème, pour tenter d'éclaircir la situation, le texte en question, pour tenter de comprendre. Et il faut se rappeler, explique-t-il, que le figuier donne deux récoltes par an. Il y a la saison des figues, qui a lieu au mois de, en été et qui se prolonge jusqu'au mois d'octobre, la saison des figues à proprement parler, mais donc après cette saison des figues, le figuier, au mois d'octobre, perd ses feuilles. Et sur les branches apparaissent des petites boules ou des petits boutons qui vont grandir et se développer durant tout l'hiver. Et arriver au mois de mars ou au mois d'avril, période de notre récit, certains de ces boutons vont devenir des feuilles et d'autres vont devenir des figues vertes ou des figues printanières qui sont finalement les prémices de ces figues d'été. Elles sont pas comparables à ces belles grosses figues sucrées bien charnues, mais elles sont comestibles et elles peuvent rassasier quelqu'un qui a faim. Et le prophète Ésaïe confirme cela lorsqu'il écrit au chapitre 28, verset 4. Ah, ça y est déjà, mais tu vas vite. D'accord. Ésaïe, chapitre 28, verset 4. Donc, le prophète Ésaïe confirme cette production hâtive, cette production printanière, lorsqu'il écrit « Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. » Alors, le récit, le texte commence à s'éclairer un petit peu. Et on comprend que Jésus, en voyant le feuillage verdoyant du figuier au mois d'avril ou au mois, fin mars, s'attendait à y trouver quelque chose. Et on comprend également l'initiative de Jésus qui décide de maudire ce figuier, parce que pour tous les paysans de ces contrées-là, si un figuier ne porte pas de figues printanières, il sera stérile cette année-là et ne produira pas de fruits. Donc on comprend mieux l'initiative de Jésus qui va maudire ce figuier en prononçant ces paroles « que plus jamais personne ne mange de ton fruit ». Alors, Jésus condamne le figuier et il l'utilise comme métaphore en rapport avec le peuple d'Israël. Parce que, au-delà de ces explications rationnelles qu'on vient de donner, de rappeler, se trouve un acte symbolique. Le figuier, eh bien, il représente exactement la condition spirituelle du peuple d'Israël et de la caste sacerdotale qui est devenue stérile, qui ne porte pas de fruits. Leur piété n'est finalement qu'une piété de façade, une piété de surface. Le système religieux juif est devenu desséché jusqu'à la racine, comme le figuier, qui ne porte pas de fruits. Jésus dira en Matthieu 23, verset 27, ben il va confirmer l'état spirituel des leaders du peuple d'Israël lorsqu'il les taxe de tombeaux blanchis. Hein, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis. » Ils ont une apparence, une façade extérieure qui donne l'air d'être rafraîchie, mais à l'intérieur, ce n'est que mort. Malheur à vous, scribes et pharisiens, car vous êtes des hypocrites et vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Alors, il continue bien sûr à perpétuer les rites cultuels, les sacrifices, mais tout cela ne reste finalement que tradition et formalisme. Tradition et formalisme. Et Ésaïe dira d'eux, bien avant, ce peuple m'honore des lèvres et de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà la condition spirituelle de la nation d'Israël à l'époque de Jésus. Un arbre desséché, vide, qui ne porte pas de fruits. Tout n'est que formalisme, tout n'est que tradition. Le temple, ce lieu de prière, est devenu un lieu de marché, comme nous l'avons lu. Un lieu de marché où les vendeurs vendent leurs bestiaux en vue du sacrifice à l'occasion de la fête de la Pâque, et un lieu où il y a aussi du trafic des agents de change qui proposent des devises étrangères aux Juifs qui viennent parfois de très loin, de contrées étrangères, ou qui n'utilisent pas la même monnaie qu'en Israël. Alors Jésus, animé d'une sainte colère, va chasser les vendeurs du temple, leurs bestiaux, ainsi que les agents de change présents. Et Jésus va reprendre les paroles du prophète Ésaïe, que le prophète mentionne au chapitre 56, verset 7, en s'exclamant « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait un repaire de voleurs, ou une caverne de brigands, selon d'autres versions. » Tout comme la prophétie de Jérémie, chapitre 8, verset 13, qu'on a mentionné tout à l'heure, eh bien, condamnait le figuier, c'est-à-dire le temple, à la destruction par les Babyloniens, certains ont pensé, dont notamment un des premiers commentateurs de l'évangile de Marc, Victor d'Antioche, au IIe siècle, certains ont pensé, eh bien, que l'acte de Jésus qui maudissait le figuier annonçait également, préfigurait aussi la destruction du temple par les Romains, destruction qui aura lieu en l'an 70 de notre ère. Mais le récit du figuier maudit propose également une autre leçon, une autre application. Le figuier, eh bien, il peut aussi nous représenter, vous et moi. Le figuier peut nous représenter en ce sens que nous avons, nous aussi, cette responsabilité de porter du fruit. Et que pour les chrétiens que nous sommes, eh bien, il n'y a pas de saison pour nous porter du fruit. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de période, il n'y a pas de contexte particulier pour nous porter du fruit. Je ne porte pas non plus du fruit vis-à-vis seulement d'une certaine catégorie de personnes que j'apprécie le plus, ou bien de celles que je considère comme étant les plus importantes, dans mon église par exemple. Non. Je suis appelé aussi à porter du fruit devant les plus petits, devant les personnes que je pense être les moins importantes, que je crois à tort être les moins importantes. Je suis appelé à porter du fruit pour toutes les personnes que je rencontre. Je suis appelé à porter du fruit pour mes collègues. Je suis appelé à porter du fruit pour mes voisins. Je suis appelé aussi à porter du fruit dans ma maison, pour mon conjoint, pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants. Je suis appelé à porter du fruit. Le propre d'un arbre fruitier, eh bien, c'est de porter du fruit. Et la caractéristique du chrétien, c'est également aussi de porter beaucoup de fruits. Et Jésus dira, d'ailleurs, dans Jean 15, un passage qui est bien connu, au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, alors vous serez mes disciples. » Le disciple de Jésus-Christ est appelé à produire, à porter du fruit. Vous connaissez du fruit en permanence. Les fraisiers que je préfère, vous savez, c'est lesquels? Ce sont les fraisiers, vous les connaissez peut-être pas. Hein. Ce sont les fraisiers quatre saisons. Ben, si vous les connaissez. Hein. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres, leur production est plus longue dans le temps et ils produisent même des fraises en hiver si on les met en serre chauffée. Eh bien, les chrétiens que nous sommes, les disciples de Jésus-Christ que nous devrions être, eh bien, sont appelés aussi à être des fraisiers quatre saisons, des fraisiers productifs dans le temps. Alors, je ne porte pas de fruits pour moi, pour ma valorisation personnelle ou bien pour ma gloire personnelle. Si je porte du fruit, c'est pour les autres, pour leur bien, pour leur être en bénédiction. Et aussi, si je porte des fruits, c'est pour Dieu. Dieu est honoré, Dieu est glorifié, Dieu est satisfait. Dieu aime nous voir porter du fruit. Et toujours dans Jean 15, Jésus dit... La gloire de Dieu, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pas un peu de fruits, pas quelques fruits, mais des fruits en abondance, beaucoup de fruits. Porter du fruit, c'est quoi? Eh bien, porter du fruit, c'est faire preuve de libéralité, de générosité, le fruit de la libéralité. Porter du fruit, c'est aussi développer un esprit de repentance, faire preuve de repentance. Porter du fruit, c'est également marcher dans la sainteté, le fruit de la sainteté. Comme le rappelle l'apôtre Paul en Romains 6, verset 22, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Porter du fruit, c'est aussi, et Francis l'a rappelé dans sa prière tout à l'heure, avoir ce désir du salut des âmes en partageant la bonne nouvelle. Porter du fruit, c'est aussi vouloir et être capable de pardonner, développer un esprit de pardon lorsque nous sommes offensés. Porter du fruit, c'est encore exercer l'hospitalité. Porter du fruit, c'est faire manifester, c'est manifester l'amour, c'est manifester la joie, c'est être animé d'un esprit de paix. C'est manifester la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité dans mes relations avec les autres et dans ma relation avec Dieu. C'est le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Porter du fruit. Alors porter du fruit, c'est aussi encore être miséricordieux, compatissant. Porter du fruit, c'est encore pratiquer de bonnes œuvres. De bonnes œuvres sont des fruits. Jérémie, chapitre 17, verset 9 et 10. Porter du fruit, c'est prononcer de bonnes paroles, des paroles de réconfort, des paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Au matin, Ingrid, quand elle m'a vu, elle m'a dit « Oh, que t'es beau, il y a un fruit qui est sorti de sa bouche. » Mais c'est vrai, je vous assure, « Oh, que t'es beau. » Un fruit magnifique est sorti, d'une parole de, un fruit est sorti de sa bouche, une parole de bénédiction, de grâce. Porter du fruit, c'est encore, eh bien, obéir au commandement de Dieu, marcher dans la lumière, portons du fruit. Bref, porter du fruit, finalement, c'est vivre comme Jésus a vécu. C'est tenter de nous imprégner, d'imprégner dans nos vies le caractère de Jésus-Christ. Portons-nous du fruit. Pour terminer, là, je nous laisse une question, voire deux. Suis-je semblable au figuier stérile qui a un beau masque, une belle façade, une belle apparence, une belle parure, mais qui est vide, ne porte pas de fruits? Ou suis-je comme un figuier productif, plein de fruits qui réjouissent le cœur de Dieu et qui sont aussi bénéfiques et en bénédiction pour les autres? Jésus cherche en chacun de nous la fertilité. Et la clé pour que nous soyons productifs, pour que nous produisions beaucoup de fruits, elle se trouve encore dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. C'est le fait de rester attaché à Jésus, à un mode de vie à travers lequel j'établis une relation, une communion intime et durable avec Jésus. Et alors le Saint-Esprit produira lui-même, à travers ma vie, à travers moi, les fruits, des fruits pour la gloire de Dieu.